pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, transformer les contraintes en opportunités, faire mieux avec moins, c'est ça l'état d'esprit de Jugad. En Inde, en Chine, au Brésil et en Afrique, des milliers d'inventeurs créent des objets qui améliorent leur quotidien. Pas besoin d'être ingénieur pour être ingénieux. Anne Barbary et Florian Hugues-Fouché se lancent dans un tour d'Afrique pendant un an à la rencontre de toutes ces innovations. Nous allons les suivre. En attendant, ils seront nos invités tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, ça ne vous a pas échappé, c'est parti pour un mois de Coupe du Monde de foot.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Patrick Boma.
Bonjour Anne-Cécile Brun.
Vous avez joué 293 matchs, marqué 141 buts, dont 33 avec l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indoptables, gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Vous avez été désigné par la FIFA le 5e meilleur joueur africain de tous les temps. Vous avez été Ballon d'Or africain en 2000. Alors comment est-ce que vous appréhendez cette Coupe du Monde 2014?
C'est une très belle Coupe du Monde. Tous les spécialistes, les acteurs, les joueurs, les entraîneurs, enfin tout le monde s'accorde à dire que c'est encore plus beau parce que c'est au Brésil. Alors espérons que ça sera une belle Coupe du Monde. On connaît les problèmes sociaux qui minent ce pays en ce moment, mais on fait abstraction de ça tant qu'on n'est pas dans la compétition, et on va espérer très positivement que tout se passe très bien. Voilà, donc mon appréhension est plutôt bonne et j'ai hâte d'être sur le sol brésilien parce que j'aurai cette chance pour suivre cette Coupe du Monde.
Vous comprenez cette polémique qu'il y a eu autour des propos de Michel Platini sur le fait qu'on préfère taire un peu justement les problèmes sociaux, alors que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été évacués autour des stades, qu'on essaye de mettre ça un peu sous un énorme mouchoir pour que la fête du foot soit plus belle.
Je comprends la polémique et je ne suis pas de l'avis de Michel Platini de faire comme si de rien n'était. Il faut se mettre un peu à la place du peuple brésilien et de ses souffrances qui n'ont déjà rien à voir avec le football, mais qui se voient amplifiées à cause du football, alors que cette grand-messe aurait dû servir justement à planir bon nombre de tensions sociales. Ça aurait dû proposer de l'emploi, relancer l'activité économique, et ça l'a apparemment plutôt plombé. Donc sans vouloir entrer dans la politique en elle-même, je pense qu'il ne faut pas nier que la Coupe du Monde n'aide pas nécessairement les Brésiliens dans leur ensemble. Et peut-être que la maladresse de Michel Platini vient du fait qu'il voulait mettre en avant le football, rien que le football, mais il y a une vie en dehors du football et je pense qu'on va parler d'un de ces aspects.
Oui, parce que les auditeurs ne s'y trompent pas, hein, vous écoutez bien C'est pas du vent et pas Radio Foot International, car Patrick Boma, depuis mars 2013, vous êtes ambassadeur de bonne volonté de la communauté des États d'Afrique centrale pour la lutte anti-braconnage, particulièrement des éléphants en Afrique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter ce rôle?
La première des choses, c'est que j'ai été approché pour cela. Je n'avais pas nécessairement des prédispositions à me lancer dans une campagne de lutte contre le braconnage, mais j'ai été sollicité en mars de l'année 2013, et je pense que ça m'a pris à peu près une heure entre le premier coup de fil et le dernier où j'ai dit « il n'y a pas de problème, je me lance ». Ce qui m'a poussé, c'est tout simplement que c'est une noble cause. En Afrique centrale, d'où je suis issu, il y a des éléphants, mais il y en a bien moins que de par le passé. Et j'ai pris conscience de ce phénomène au fur et à mesure, et plus j'avance, plus je suis touché par cela.
Alors votre connaissance de l'Afrique, de l'Europe où vous avez grandi, de l'Asie où vous avez joué, hein, puisque vous avez joué au Japon, qui est la destination, l'Asie principale de l'Ivoire. Peut-être que c'est cette multi-connaissance internationale qui est utile pour défendre cette cause.
Tout à fait, je viens d'Afrique centrale, il y a des éléphants, je vis en Europe où il y a des pays de transit, et j'ai évolué en Asie, et notamment au Japon, où ce sont des pays de consommation. Donc je me sens touché par cette filière. J'espère pouvoir être un bon ambassadeur pour qu'un plaidoyer puisse être entendu et qu'on puisse vraiment faire quelque chose contre ce fléau, si je peux l'appeler ainsi.
Oui, parce qu'on en parle souvent dans C'est pas du vent, s'engager pour la défense des éléphants d'Afrique centrale et de l'Ouest, c'est urgent, comme en témoigne Julien Marchais, le fondateur et le coordinateur de l'association des éléphants et des hommes qui vient de fêter ses 10 ans.
La coexistence humain-éléphant a de multiples dimensions. Les menaces qui aspects sur les éléphants, et notamment le braconnage, c'est une dimension. La réduction des habitats naturels est une autre dimension. Et puis, il y a tous les aspects de coexistence dans des continents, puisque l'Afrique et l'Asie sont de plus en plus peuplés. Il y a une nécessité de partager l'espace. Et face à cette problématique, les humains qui vivent aux côtés des éléphants doivent s'y retrouver et ne pas porter seuls les coûts de cette coexistence, puisqu'ils existent, et même avoir, si possible, des bénéfices.
Alors, les chiffres du braconnage sont quand même alarmants, hein. Il y a plus de 20 000 éléphants qui ont été tués dans 27 pays d'Afrique en 2013. On sait que c'est la demande asiatique, hein, d'ivoire qui est en pleine croissance, qui irrigue ce marché et stimule cette activité. On entend dire que les éléphants d'Afrique pourraient disparaître. Est-ce que c'est vrai ?
Non, ça paraît être un propos un peu exagéré, puisque il faut distinguer en Afrique au moins quatre sous-régions et la région d'Afrique australe qui compte plus de 200 000 voire 300 000 éléphants a des populations qui sont en bonne santé. Les autres sous-régions et en particulier l'Afrique centrale très touchée par le braconnage et l'Afrique de l'Ouest où on ne trouve plus que 1% de la population d'éléphants d'Afrique sont en revanche en situation très très difficile et là ils pourraient effectivement dans les décennies à venir disparaître de ces régions.
Voilà, d'où la nécessité d'agir en Afrique centrale. Alors, quels sont vos moyens d'action, Patrick Baumin, en tant qu'ambassadeur ?
Je reviens juste sur sur ce témoignage. Pas de disparition de l'Afrique, oui, parce qu'on va dire que l'Afrique australe et les éléphants sont bien protégés. Mais quand on aura décimé les populations dans les autres régions, je suis pas sûr que cette région ne soit pas touchée. Donc moi, je suis à dire que sans rien faire, on risque de ne plus avoir d'éléphants en Afrique. Et vaut mieux avoir connaissance de cette réalité-là plutôt que de minimiser.
Ce n'est pas l'objectif de Julien Marchais qui lui se bat vraiment pour
les auditeurs, pour les gens
message.
Le message doit bien passer. Il y a une vraie possibilité. Il faudrait que je réponde à votre question, mais
je vais vous la reposer. Donc, quels sont vos moyens d'action en tant qu'ambassadeur ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure, action sur les différents territoires, l'Afrique, on a parlé des pays de transit, on pourrait parler du Soudan, où il y a notamment de vrais guerriers, des gens qui viennent avec des armes pour vraiment abattre ces éléphants, et les risques qui sont encourus de part, d'abord eux-mêmes risques, mais ensuite les populations avoisinantes. Il y a aussi une action vers l'Asie. Je rappelle que j'ai eu à passer 4 ans de mon existence de footballeur au Japon et que j'ai la chance d'avoir une belle image, une belle aura. J'espère pouvoir visiter, je dirais, des entreprises qui ne commanditent pas, mais qui font que la demande passe par eux. Et donc, et à ce sujet, j'ai constaté que le groupe Rakuten, alors je cherche pas à l'incriminer, mais il fait partie des groupes qui vendent de l'ivoire. Rakuten, pour ceux à qui ça ne parle pas encore, c'est le numéro 1 de la vente en ligne, qu'a acheté récemment un groupe comme Price Minister, c'est pour dire. Ce groupe-là est tenu par un dirigeant que je connais très bien. À savoir que quand j'évoluais à Kobe, donc au Japon, c'était le président de mon club.
Ça crée des liens.
Ça crée des liens, mais j'ai pas encore réussi à entrer de nouveau en contact avec cette personne. J'ai des attaches, on va y arriver. J'espère que d'ici cet été 2014, on pourra organiser une rencontre. Et voilà, j'aimerais associer le monde sportif, la musique, les jeunes, les entreprises, enfin un maximum de monde à ces discussions, à ce plaidoyer. Et puis pourquoi pas les pays qui aident dans cette lutte. Je pense notamment aux États-Unis et le président Obama et fervent militant de la cause. Des échanges avec les ambassadeurs, avec d'autres ambassadeurs, je pense à Leonardo DiCaprio, Zhao Ming, le basketteur, Yaya Touré, qui pour l'ONU vise la même cause. Voilà un peu l'idée qu'il y a autour de ce que je compte faire et ce que je propose régulièrement à la CEAC.
Alors aujourd'hui, la lutte contre le braconnage est un combat complexe et difficile, hein, parce qu'il a changé de nature, ce braconnage. Comme nous l'explique Honoré Tabouna, le coordonnateur de la cellule régionale lutte anti-braconnage au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
L'échelle a changé. On n'a plus affaire aux braconniers du village. Nous avons maintenant affaire à des bandes bien organisées, utilisant les armes de guerre, et utilisant même maintenant aujourd'hui des moyens chimiques. C'est plus une question limitée à la biologie, à l'écologie, mais elle touche maintenant questions sécuritaires, politiques, diplomatiques.
Alors c'est vrai que le braconnage et le trafic des espèces représentent selon Interpol 14 milliards de dollars. On sent qu'il y a beaucoup d'argent, c'est notamment dû à l'émergence de la classe moyenne en Chine. Alors vous parliez de bandes organisées, c'est sûr que comme la manne est importante, on s'organise. Alors on cite souvent, selon les experts, les chebabs somaliens, l'armée de résistance du seigneur ougandaise ou les janjaouis soudanais qui pourraient être impliqués. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne analyse?
Mais disons que l'information vient des acteurs qui sont sur le terrain. Donc l'analyse est bonne, l'analyse elle est justifiée. Nous en Afrique centrale, ce qu'on a connu au début de l'année 2012, des braconniers qui sont venus d'une autre communauté économique régionale, donc plus à l'est, sont venus
du Soudan,
avec des armes de guerre. Ils ont utilisé des chevaux. Donc, ce n'est pas le petit braconnier du quartier, comme j'ai dit, ou du village. Parfois, on parle des anciens rebelles. Mais c'est des gens qui savent manier des armes de guerre. Donc, nous avons affaire aujourd'hui, comme on le dit, à des criminels.
Et oui, voilà la réalité du braconnage aujourd'hui, Patrick Boma.
Oui, décrit par Honoré Tabouna, avec lequel je suis bien entendu en étroite collaboration. Depuis un an, nous communiquons de façon hebdomadaire et quand il y a des certaines actions, c'est quasiment toutes les heures que l'on communique. Et ce, depuis la réunion d'extrême urgence qu'il y avait eu le 26 mars 2013 à Yaoundé, où j'ai eu à, pour la première fois, à discourir devant un beau parterre de personnalités du monde politique, de la sous-région et pas que. Il y avait les ambassadeurs américains, français, l'Agence française de développement, WWF. Bref, j'ai eu à agir déjà et j'ai envie d'en faire plus. J'ai du temps à consacrer à cela et l'avenir, j'espère, pour les éléphants sera rose grâce à nos actions et pas seulement les miennes, bien entendu.
Alors vous avez prévu de partir en mission justement à la rencontre des éléphants?
Oui, j'aimerais bien et le faire au plus vite. Ça sera très certainement dès le mois d'août. J'aimerais vraiment aller sur les aires protégées déjà pour ressentir l'atmosphère réelle et peut-être m'imprégner et certainement avoir un discours plus fort, plus convaincant ensuite. J'ai à dire souvent que les éléphants, ben moi je les ai vus à la télé ou dans les zoos et j'aimerais que pour les générations à venir, nos enfants puissent les voir là où ils sont vraiment, dans leur habitat naturel, avec un maximum de sécurité.
Vous viendrez nous raconter donc à votre retour de mission. En attendant, vous partez au Brésil pour la Coupe du Monde, donc belle Coupe du Monde à vous.
Oui, merci, c'est très gentil.
Merci d'être passé dans C'est pas dur.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Que Ribéry soit pas joli, c'est pas grave. Que Benzema soit mal poli, c'est pas grave. Même si c'est la faute à Nasri, c'est pas grave. C'est pas grave. Si Valbuena fait du chiquet, c'est pas grave. Ou si Giroud tire à côté, c'est pas grave. Loris est là pour nous sauver, c'est pas grave. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. Plus personne vous dira des saloperies comme ça. Vous aurez vos statues, peut-être même une rue portera votre nom. C'est pas grave. Si Kossiel n'y fait pénalty, c'est pas grave. Sur une erreur de Debuchy, c'est pas grave. Même si c'est la faute à Nasri, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu peux pas saquer Sako, c'est pas grave. T'iras faire la fête à Rio, c'est pas grave. Mais tu vas finir à Sochaux, c'est pas grave. Allez, si vous gagnez les bleus, tout ira beaucoup mieux. La France viendra danser sur les Champs-Élysées. Tout le monde sera content, surtout le président. On lui foutra la paix, au moins pour cet été. Mon petit mari, mon petit mari, mon petit mari, mon petit mari.
Si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de foot à Sao Paulo, vous avez remarqué que la nature était à l'honneur. Des hommes, des femmes et des enfants déguisés en fleurs ou en arbres pour rappeler que le Brésil abrite entre 15 et 20% de la biodiversité mondiale, notamment au sein de la forêt amazonienne. Problème, la déforestation, après une brève accalmie, a repris de plus belle. Voilà pourquoi des représentants des Kayapos, des Indiens qui vivent dans l'ouest du pays, sont venus faire une tournée en Europe, car c'est nous qui importons le bois. Nous avons rencontré l'un d'eux lors de son passage à Paris.
Mon nom c'est Megaron Tchoukalamay, je suis du peuple Kayapo.
Et vous êtes venu donc en Europe pour faire une tournée qui commence par Paris, qui va se poursuivre à Bruxelles, Londres, Monaco et Oslo. Quel est l'objectif de cette tournée ?
L'objectif de ce voyage principal, c'est de transmettre notre préoccupation sur la déforestation et la construction des barrages sur nos rivières.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre cette Coupe du Monde de football, qui est une fête internationale, et vos préoccupations à vous qui ont du mal à attirer l'attention ?
Bon, le monde entier va avoir les yeux tournés vers le Brésil, mais mon oncle Raoni et moi, nous avons le besoin de transmettre au monde entier ce qui est en train de se dérouler.
Alors justement, qu'est-ce qui est en train de se dérouler ? Puisqu'il y a eu une première tournée il y a 25 ans en Europe avec Sting. En 40 ans, l'Amazonie a perdu 700 000 km² et après une accalmie, la déforestation est repartie à la hausse. Près de 6 000 km² ont été déforestés en 2013. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, puisque ça fait des années que vous témoignez finalement ?
Bon, il y a 25 ans, nous sommes venus en Europe pour obtenir la démarcation de la terre indigène Mekranoti. Et ça s'est réalisé. Notre terre est effectivement protégée, mais le déboisement et la déforestation, elle est arrivée aux limites de notre terre et c'est ça qui nous inquiète aussi. Oui, c'est pour ça qu'il est important de rendre les gens conscients qu'il est nécessaire de protéger au moins un tout petit peu de cette forêt amazonienne avant qu'elle soit détruite.
Qu'est-ce que vous attendez d'un pays comme la France qui est quand même le premier importateur de bois en Europe, devant le Portugal, les Pays-Bas et l'Espagne ?
Ça c'est une préoccupation que nous avons déjà dit à l'Assemblée nationale devant le député, c'est qu'il y a du bois illégal qui rentre ici en France, notamment en France, et qu'est-ce que eux, c'est moi qui leur ai demandé, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour interdire l'importation du bois illégal en France ?
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
On n'a pas eu de réponse.
Et on a vu des images où votre oncle Raoni et vous-même avez été applaudis par l'ensemble de l'Assemblée nationale. C'est un symbole fort, mais derrière, est-ce qu'il y a eu des engagements ?
On a été très sensible à cet hommage qui a été rendu à l'Assemblée, mais ce qu'on voudrait même, c'est qu'il fasse prendre des mesures concrètes qui bénéficient nos peuples de là-bas.
Au Brésil, aujourd'hui, comment votre parole est reçue ? Parce que vous avez du mal aussi à vous faire entendre.
C'est-à-dire que les ruralistes n'aiment pas notre lutte, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres gens qui nous appuient et nous aident à préserver notre culture, nos terres et nos traditions.
Dilma Rousseff arrive à la fin de son mandat. Quel bilan faites-vous du rapport qu'elle avait avec les peuples indigènes au Brésil, qui représentent quand même une part importante de la population?
Elle n'a rien fait pour les indiens. C'est-à-dire qu'elle n'a fait aucune mesure qui puisse favoriser dans la limitation des nouvelles terres indiennes. Elle n'a jamais appelé les chefs indiens pour discuter à propos des territoires qu'ils voudraient revendiquer ou autre chose comme ça. C'était pourtant une obligation constitutionnelle du gouvernement brésilien de démarquer les terres, de les donner des protections de santé, des protections pour les apprendre à subvenir à leurs besoins, en faisant dans l'agriculture et autre chose.
Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve juste après le flash d'info pour vous faire découvrir l'esprit de Jugad. A tout de suite.